Il est 6h, vous venez d'ouvrir un œil et immédiatement vous sentez que vous n'êtes pas chez vous. D'abord il y a, au plafond, cette chose qui tourne doucement, qui déjà, au premier soleil, fait de l'ombre, mais une ombre curieuse parce que, à votre gauche, il n'y a que des petites barrettes de bois, un store en bois foncé. Vos meubles sont classiques, ils sont coloniaux. En y regardant de plus près, on voit même ces petits carrés qu'on retrouverait dans le fond de l'Andalousie ou en Castille. Vous sentez aussi qu'il y a encore une certaine fraîcheur, mais que par ces moustiquaires ouvertes, déjà quelque chose de moite, quelque chose de nouveau vient de rentrer à l'intérieur de la pièce. Et puis, vous vous levez, vous ouvrez la porte, vous tombez sur une terrasse en balcon avec du fer forgé, des colonnes régulières de couleur tendre. En bas, une eau turquoise et autour un jardin. Un jardin où immédiatement vous avez senti des vibrations, des oiseaux qui voltaient. Tiens, un petit colibri qui vient de se poser sur une fleur. Quand je dis poser, il la surplombe. Il reste là avec son long bec. Vous ne voyez qu'une vibration dans l'air. Et déjà le premier rayon a traversé les palmes. Vous avez vu une orchidée briller dans ce premier rayon de soleil. Et la chaleur a commencé à monter. Vous êtes dans un terrain, dans un endroit, dans un pays qui paraît à la fois sec et humide. Il y a de l'eau sous vos pieds, à quelques mètres, une énorme couche de calcaire. Oh, vous devez être à 8, 10 ou 20 mètres d'altitude. Il y en a sur des centaines, oui, il y a comme cela de la roche sur des centaines de kilomètres carrés. Vous êtes là-bas, au bout de la péninsule du Yucatan. Vous ouvrez un œil sur Uxmal. En regardant sur la droite, en sortant de l'hacienda, vous venez d'apercevoir la première ruine et puis la découverte de la pyramide du devin. En descendant dans la salle à manger, vous avez songé que dans cette région, il n'y avait pas de jardin. Vous n'avez pas vu d'endroit où poussaient les fruits tropicaux qu'on vous offre maintenant. Une femme habillée en indienne, je dis par là une indienne habillée en maya, c'est-à-dire avec cette robe que l'on ne trouve qu'au Yucatan, et puis ce petit jupon de dentelle qui dépasse en bas, la broderie avec des couleurs chatoyantes, des fleurs, des formes parfaitement dosées, et surtout, c'est curieux, il est 6h30 du matin, 7h peut-être, cette femme porte déjà sur sa poitrine comme si elle l'avait. Oh, vous savez, ces poudreuses d'antan comme cela que vous prenez dans un bol et vous prenez du talc blanc et vous vous frottez la gorge simplement parce que vers 9h, 10h, il commencera à faire plus chaud et vous vous êtes passé ce même talc sur les épaules qui sont bien ouvertes, qui sont bien dégagées, bien arrondies. Cette peau maya est assez curieuse, elle est brillante, elle est ferme et sur le cou. Et vous aurez mis un tout petit rien également sur le bord de votre front. C'est curieux de voir une peau bronzée, une peau dorée avec ce soupçon de blanc. Et puis, elle est coquette, elle aura peut-être déjà, comme l'auraient fait les précolombiens, mis un peu de rouge à ses lèvres. Une maya, habillée comme une espagnole, avec un petit rien de fleuri et de tropical. Vous avez mangé, vous avez dégusté ses fruits, vous avez dit « Mais d'où viennent-ils » Et c'est là que vous apprenez que si tout le Yucatan paraît désertique, et si la région d'Uxmal n'a même pas d'eau, et pourtant vous venez d'apercevoir la piscine pleine, c'est que sous vos pieds il y en a. Et que, non loin de là, à quelques kilomètres, les mayas avaient découvert une région où la nappe phréatique pouvait affleurer. C'est un véritable jardin. Derrière Uxmal, Labna, Xlapak, derrière Kaba ou Sahil, il y a des fruits par milliers, des arbres qui fleurissent. Vous ne sentez pas l'odeur des orangers depuis ici, mais vous devinez que pour avoir été précolombien, pour avoir construit ce que nous allons découvrir, il a fallu se nourrir. Vous avez créé un arc de cercle avec tous les petits sites Pouk. Vous avez ces collines étranges qui traversent toute la péninsule du Yucatan avec des sommets qui doivent bien monter à 100 mètres. Et là, juste derrière, vous avez cet arc de cercle. Tous ces petits sites, toutes ces pyramides, ces palais, ces arcs, ces quadrilatères qui forment véritablement les sites Pouk et ce jardin au centre. Ce jardin vital que le Maya avait su faire fonctionner comme on planterait son premier grain de maïs pour se nourrir tous les jours afin de manger sa tortilla. Quelques mangues, un peu d'ananas, quelques oranges. C'est important de manger, c'est important de sentir que, Effectivement, un Maya dans cette région du Yucatan pouvait se nourrir il y a 1000 ans ou peut-être davantage. Mais à la différence de Tikal, là-bas dans les jungles du Petén, de Palenque, dans l'arrondi du golfe du Mexique, adossé à cette jungle et à cette Sierra Madre, à Copan, tout au sud, le site peut-être le plus septentrional resterait comme Alcalco ou Palenque, mais le plus au sud, c'est bien Copan ou Honduras. Eh bien, Uxmal, où nous sommes maintenant, n'a jamais été ce qu'on pourrait appeler une cité perdue. Il est bon de savoir qu'en 1557 déjà, on a fait référence à ce site. Ça veut dire à peu près 15 ans après la conquête de toute cette région du Yucatan. Quand je dis 15 ans, vous aurez compris que 1492 n'est pas très loin, mais qu'il a fallu d'abord prendre la capitale, c'est-à-dire Mexico, Tenochtitlan, partir de Veracruz, et que même si on a déjà touché le Yucatan en 1511, les premiers naufragés, 1517, les premiers observateurs, 1518, les premiers avoir vu Tulum et cette forteresse sur la mer des Caraïbes, 1519, la conquête du Mexique, c'est seulement dans les années 40 que l'on va oser s'attaquer à ces guerriers mayas. Et si en 1557, comme je le disais, on avait déjà vu et visité le site d'Uxmal, il s'agit en fait de quelqu'un qui était venu comme le faisaient tous les prêtres, tous les frères. Ce frère Antonio de Ciudad Real, c'est un moine, un simple moine franciscain qui était descendu par là et avait découvert, étudié, je dirais, toutes les antiquités mayas. Et ce qui l'intéressait surtout, c'était la langue. Cette langue qu'il fallait bien comprendre pour pouvoir convertir ces milliers, ces millions d'Indiens qui parlaient une langue étrange qui n'avait rien à voir avec le Nahuatl des Aztèques. Non, les mayas, c'est autre chose. Et il a réussi à décrire ce site, et c'est aux alentours de 1580, peut-être même plus tard, 1586, qu'il y a un autre voyage d'inspection, et que pour la première fois, on a fait la description du quadrilatère des nonnes, de la maison du gouverneur et de tous ses édifices. Laissez-vous aller, rentrez dans le site, vous êtes le premier, il est 8 heures. Il y a une fois de plus cette température qui est montée, vous sentez déjà que l'herbe a changé. Elle est encore humide, sur vos sandales, quelques gouttelettes se déposent. Vous aurez peut-être mis de bonnes baskets ce matin, parce que quand vous êtes devant la pyramide du Devin, vous vous dites qu'aucun bâtiment dans la région où vous êtes arrivé, c'est-à-dire cette péninsule du Yucatan, ne monte aussi à la verticale. Quelque chose d'impressionnant, laissez-vous aller, prenez votre temps. Dans 10 minutes, vous aurez devant vous le spectacle le plus grandiose. Vous êtes sur une fausse montagne, au loin, des collines, des petites collines vertes, faites de savanes, de cactus, d'un peu de calcaire, ondulent à l'horizon, et devant vous, là, au moment où vous avez débordé le temple sur la gauche, que vous avez osé oublier le vertige, vous venez de voir le quadrilatère des nonnes, le plus grand quadrilatère que les Mayas nous aient laissé, une impression d'harmonie. Sur votre gauche, un jeu de pelote qui vous relie à une plateforme de plus de 2,5 millions de mètres cubes de terre et de pierre. Tout cela monté à dos d'homme, avant la construction. Regardez, le palais du gouverneur, le plus grand bâtiment que les Mayas nous aient laissé. Plus de 20 000 blocs sculptés pour en faire un décor magique. À côté, la grande pyramide qui monte doucement vers le ciel. Encore quelques plantes, quelques arbres, un horizon de verdure. La pyramide de la vieille, encore dans la végétation. Et vous, vous qui entendez maintenant ce tout petit bruit de fond, hirondelle. Hirondelle qui rentrait dans ces centaines de chambres, des chambres noires, des salles avec cette voûte maya, comme une hutte bien fermée, sans fenêtre, obscurité, le soleil est monté, lumière, relief, décor. Vous êtes constructeur, vous êtes architecte. Vous venez de dessiner la cité parfaite, celle où les Mayas voudraient vivre, où les dieux sont arrivés, où les gouverneurs ont su tenir toute une partie d'une grande péninsule, plate jusqu'à l'infini de la mer. frère Diego ? Frère Diego, dites-moi, ce bâtiment est assez étrange. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Je ne sais pas, moi j'y verrais peut-être un couvent. Un endroit pour des nonnes. Regardez toutes ces pièces. Il y en a des centaines, elles sont toutes fermées les unes sur les autres. Il y a une entrée et puis cette obscurité. Ah ben, peut-être que c'est un endroit pour des nonnes, vous avez raison. Et puis c'était bizarrement carré, il y a des ouvertures, il y a une arche centrale. Pourquoi pas ? Le quadrilatère des nonnes. C'est un nom qui va lui rester. Il est donné par Diego Lopez de Cogolludo, ce frère qui a visité Uxmal en 1658. Oh, regardez ce bâtiment, il est extraordinaire, il y a un peu de végétation, il était pris dans la verdure, mais il est immense. Combien de portes ? Des escaliers, des décors, des serpents, des grecs, des formes étranges, des personnages avec des plumes sur la tête. Le palais du gouverneur. C'est comme cela qu'on donne des noms à des sites mayas, à des monuments qui nous ont fait rêver, qui nous feront rêver, qui nous font rêver. Aujourd'hui, on a encore ce nom en tête, palais du gouverneur, quadrilatère des nonnes. On ne connaît pas vraiment les fonctions de ces édifices, mais c'est vrai que Cogolludo, il s'est basé sur des comparaisons qui vous paraissent peut-être un peu superficielles avec ces monastères là-bas, 10 000 kilomètres. Du côté de son Espagne natale. Puis ses palais qu'il avait vus en Europe, ses palais nouveaux, ses palais de pierre jaune, inspirés de l'architecture italienne, inspirés du début de la Renaissance, inspirés de la fin du gothique. C'est vrai, quand on est à Uxmal, on se dit que c'est tellement grand, tellement monumental. Qu'obligatoirement, on repense aux plus grandes choses d'Europe. On se dit même que l'Europe paraît loin et peut-être un peu petite. Ça, c'est pour le XVIe ou le XVIIe siècle. Et à la fin de ce XVIIe, au début du XVIIIe, on va oublier Uxmal. On va oublier tous les petits sites Pouk dont je parlais tout à l'heure, cet arc de cercle un peu magique qui entoure le jardin d'aujourd'hui, cette partie horticole qui nous fait rêver parce que il y a marché, il y a naturellement grouillement, vie et village. Au XVIIe, au XVIIIe, tout est oublié et on imagine bien comment cette forêt, quand vous passez là, le long de cette route étroite, on a l'impression qu'elle est dévorée, qu'elle est mangée. Même l'asphalte a été pris par la verdure, par cette savane étrange où tout pousse, même s'il fait très chaud, même si c'est très sec, même si les saisons sont aussi marquées que chez nous. L'été, il pleut, l'hiver, tout est brûlé. Eh bien, malgré tout, quand on veut pénétrer à l'intérieur de la forêt, on sent qu'il ne faut prendre que la machette. C'est impossible d'avancer. Et qu'en 17, au 18e siècle, Uxmal, un peu comme une gangrène, a été rongé, a été mangé, a été abîmé par cette végétation. Et c'est en 1830, 1835, qu'un étrange baron, un baron qui se nomme Jean-Frédéric de Waldeck, oh, c'est un Autrichien un peu bizarre, c'est vrai, il a visité Uxmal, et il va lui donner un nom aztèque, il va la baptiser Itzalan. Il va affirmer qu'il venait de découvrir des influences étranges, que les Asiatiques étaient passés par là, que l'architecture était bien d'Asie. Il était même sûr d'avoir vu des trompes d'éléphants sur les bâtiments. Il avait imaginé que tous ces masques de Tchak, ces masques avec ce nez du dieu de la pluie, en forme de serpent qui se boucle, qui se finit par un arrondi étrange. Mais non, ce sont bien des trompes d'éléphants. Et Waldeck va même dessiner Uxmal à sa façon. Il va dessiner les autres sites. Il va publier tout cela aux alentours de 1838-1839. Et c'est là, tout à coup, en ouvrant, en feuilletant ses ouvrages, peut-être un peu mal dessinés, mais enfin, que certains Européens, certains Américains ont commencé à rêver. Rêver sur ces monuments que tous avaient oubliés, que tous avaient délaissés dans la forêt. Si nous étions nous-mêmes ces explorateurs un peu romantiques du 19e siècle, si nous nous imaginions ce livre de Waldeck et que nous soyons un diplomate, un explorateur, que nous soyons, tenez, John Lloyd Stephens, et qui venait de rencontrer l'anglais Frederick Carswood, et que nous partions visité Uxmal en 1881. Une plume, un pinceau. Déjà, vous savez, je ne sais plus comment s'appellent ces boîtes étranges, ces boîtes à lumière où vous laissez juste le petit trou à l'intérieur et vous vous plongez simplement un regard qui va inverser l'image, un peu comme dans l'image photographique inversée. C'est une chambre, une sorte de chambre noire qui permet d'avoir la projection du bâtiment que vous êtes en train de regarder et qui vous permet, avec votre crayon, avec votre mine de plomb, de redessiner le bâtiment, mais de manière parfaite. Un peu comme si aujourd'hui vous preniez un projecteur et que contre la paroi où votre slides ou votre diapositive est projetée, eh bien vous n'aviez qu'à suivre les dessins de ce monument. C'est ce qu'a fait justement ce dessinateur extraordinaire, Carlos Wood, là, dans ces années 1880, avec ce qu'on appelle en espagnol la cámara lucida, eh bien, il va nous reproduire tout cela. Il va même nous narrer avec des notes extraordinaires de son compagnon ce voyage à travers l'Amérique centrale et le Yucatan. Stephen Secaurs Wood, ils vont revenir à Uxmal. Uxmal les a fait rêver. Vous êtes là en 1843 et ils vont écrire un ouvrage qui reste une lecture. Je vous la conseille parce que c'est vrai que si vous lisez l'anglais, vous pouvez lire Incidents of Travel in Yucatan. Si vous aimez l'espagnol, ça existe aussi. Il y a certains extraits en français, mais sachez que lors de ce second voyage, ils étaient accompagnés par quelqu'un qui sera déterminant pour la connaissance de cette péninsule. C'est un Français, le docteur Samuel Cabot, et lui, il va s'intéresser à toute la faune, à toute la flore de ce Yucatan, cette terre du gibier, cette terre du venado, comme on l'appelle encore, cette terre du mayab. Mayab, un nom que les premiers Espagnols, sur leur caravelle, sur leur coque, ont dû entendre. Mayab, mayab, la terre du mayab, cette terre étrange, toujours plane, cette terre où l'on parlait une langue que l'on n'avait jamais entendue dans les Caraïbes, Mayab, Mayab. La terre du Mayab, le nom va rester. Comme cela, tout à coup, sur près de 325 000 km², tous ces hommes, à peau brune, lisse, imberbe, aux yeux à peine bridés, avec ces cheveux noirs, avec ce ton étrange, ce ton de la voix qui vraiment est unique dans toute l'Amérique. Quand on a croisé le premier Maya du Yucatan, il y a pratiquement 60, 70, 80% de la population qui est Maya encore dans cette immense péninsule. Vous êtes dans un autre monde, vous n'êtes plus au Mexique. Ces gens sont doux, intelligents, rien de fuyant, simplement confiants. Ils ont deux pieds sur une terre de calcaire, les yeux dans le ciel. Ils ont pris l'habitude de regarder passer ce soleil qui, deux fois par année, va monter exactement au zénith. Ils connaissent parfaitement l'orientation du monde, leur existence, leur passé. Les Katoun passent. 20 ans, jusqu'au jour où est arrivé cet homme rouge, ce Tutulchiu, cet être un peu étrange venu de la mer, qui va troubler en partie l'harmonie maya. Mais un homme, un blanc, va lutter en leur compagnie. Il a été naufragé, il a épousé la première femme maya. Il va avoir comme enfant les premiers métis du Mexique. Guerrero a fait un choix. Il est tatoué, il porte des bijoux, il n'a pas la peau brune, il a une barbe. Mais il sent que les mayas ont peut-être une civilisation, une raison, une philosophie qui fait qu'en regardant le ciel, on comprend qu'on n'est plus en Europe. Vous êtes monté là, sur la pyramide du devin. Vous avez vu la maison du gouverneur, les nonnes. Et puis vous avez aperçu au fond la maison des palombes, des colombes. La maison des tortues, ma préférée. La maison des tortues, un tout petit édifice, lisse. Lisse avec des portes noires, le bas est sans décor. Et dessus, vous avez comme une ceinture de pierre qui entoure tout le bâtiment. Il est très rectangulaire, mais le haut s'écarte un peu du bas, comme s'il avait poussé, vous savez, comme une corolle qui s'ouvre. Et on a l'impression que cette ceinture de pierre maintient le tout de la maçonnerie. Tout autour, de toutes petites tortues qui ont été sculptées, les unes derrière les autres, et qui font tout le tour de cette ceinture. Sachez quand même que nous sommes en juillet, que la tortue, par exemple, serait la pluie, mais cette pluie diluvienne qui tombe juste quelques minutes par jour, les grands déluges qui vont faire que de juillet, août, septembre à octobre, vous aurez la vie, vous aurez l'eau. Vous êtes en décembre, la sécheresse arrive, avril, il fait trop chaud, tout est sec. L'eau, le déluge, la vie, l'espérance du Maya. grosses gouttes sont tombées sur Ushmal. Chaque feuille a reçu comme une touche. Chaque feuille s'est pliée sous la pression de l'eau. Et puis, on a l'impression que tout à coup, quelque chose d'autre s'est ouvert. Vos yeux, votre cœur, une fleur. Ushmal revit. Et c'est vrai que cette chute des tortues, cette chute des grenouilles tombées du ciel, cette idée de Tchak, Tchak, dieu de la pluie, ce dieu que vous avez vu partout autour de vous à Ushmal, même si vous êtes arrivé au 19e, vous avez vu que partout il y avait ses nez recourbés dans les angles, des couleurs différentes, des formules différentes. Tchak, le dieu de toutes les pluies, de tous les moments, de tous les univers, de tous les ciels, parce qu'un ciel tourmenté, c'est un ciel de joie, c'est un ciel de vie pour un Maya. Regardez les grands cumulus qui maintenant roulent depuis la mer et s'avancent sur toute la péninsule. Vous les voyez comme si c'était un film en accéléré. Vous avez l'impression qu'il y a un deuxième monde en-dessus de vous. Et tout à coup, ces nuages craquent, s'ouvrent et vous redécouvrez cet astre qui vous fait mal à la peau. La vôtre ne brunira pas, mais vous avez senti qu'il y avait quelque chose d'implacable dans cette façon de vivre à Ushmal. Vous avez été comme Stephens qui va découvrir un petit monument que j'ai toujours adoré parce qu'il représente quelque chose pour un Maya. Il est allé près du palais du gouverneur et il a trouvé une tête de jaguar, et puis un corps de jaguar, et à l'autre bout, un corps de jaguar et une tête de jaguar. Il y a deux têtes à chaque bout d'une sorte de siège, d'un superbe siège bicéphale. Il l'a pris et il l'a ramené, vous savez, l'hacienda où vous êtes réveillé ce matin. Eh bien, c'est là qu'était ce jaguar pendant des dizaines d'années, avant qu'on le replace devant le palais du gouverneur. Ce jaguar, pour moi, c'est tout simplement, savez-vous, le pouvoir, bien sûr, la force, mais ce pouvoir étrange qui est sous nos pieds, sous la roche calcaire, sous cette nappe phréatique, sous cette eau qui circule partout en dessous du Yucatan. Et puis, ce jaguar qui, tous les soirs, va dévorer le soleil, tous les matins, va le recracher. Le pouvoir qui fait que tout ce qui est sous nos pieds, sous votre océan, c'est bel et bien cette force nocturne qui va permettre d'un seul coup de réactiver l'univers et de relancer cette boule de feu pour une journée supplémentaire. Vous étiez avec Stephens, là, devant ces ruines, et vous avez compris. Vous avez compris pour la première fois au 19e siècle que ces constructions impossibles avaient été faites par des Mayas. Par des Mayas qui étaient les ancêtres de ces Mayas du Yucatan. Le Yucatan que vous venez de découvrir, que vous connaissez maintenant depuis plusieurs années. Et puis vous laissez de côté les Égyptiens, les Phéniciens, les tribus perdues d'Israël, tout ce qu'on avait raconté à cette époque romantique. Et vous allez visiter Kaba, Sahil, Labna. On le fera ensemble, je vous le promets. Et puis, on va ensuite se laisser exciter comme ça, sur le plan de l'imagination, à Kaba par une arche. Une arche comme un arc de triomphe, solitaire, au milieu de la savane. Et puis, en creusant un peu, en débroussaillant, en prenant vos ouvriers, en creusant un peu là sous ce taillis, sous cette savane, vous découvrez une route parfaitement droite. Vous savez maintenant que sur des kilomètres, on avait fait un sac B. Ce sac B qui partait depuis Kaba jusqu'à Ushmal. Vous entendez les trompes? Vous entendez les tambours, vous voyez la procession, les plumes sur la tête de ces hommes qui se sont maintenant harnachés. Une piste blanche, blanche comme de la craie, blanche, blanche comme on sait être blanc lorsqu'on parle du Yucatan. Mérida, ville blanche, chaque maison peut être blanche. Une route parfaite, plane à travers cette savane, simplement pour relier deux sites. C'est sûr que Casswood et Stephens ont dû rêver. Et puis ils sont allés à Sahil. Et Sahil, ils ont vu des palais sur des palais qui formaient non plus des palais sur des palais, mais des pyramides en forme de palais. Labna, une autre petite arche perdue dans un quadrilatère. Une vie, une intensité, des sculptures, tout cela, ils le découvraient peu à peu. Et ils comprenaient que, bien sûr, il y avait eu vie. Il y avait eu tout un arc de cercle de vie. Ces petits sites étaient tous reliés au grand site d'Ushmal qu'ils connaissaient déjà. Et vers la fin du 19e siècle, il y aura d'autres hommes. Charmné, il y aura Le Plongeon, il y aura Holmes. Au début de ce siècle, il y aura Seller. Il y aura bien sûr des gens qui vont interpréter les ruines d'Ushmal pour la première fois. On va commencer à dessiner tout cela, à faire des plans. Franz Blom sera le premier à faire une véritable expédition universitaire. Il va dessiner, reproduire le quadrilatère des nonnes. Pourquoi ? Eh bien, pour le refaire là-bas, du côté de Chicago, en 1933, pour la fameuse foire mondiale, pour l'exposition universelle. 1933, là-bas, à Chicago, dans le Nord, Uchmal était rentré de plein pied dans notre histoire. Un monument universel. Un monument où, à l'époque de Stephens, on racontait encore sur place une légende. Une légende où le grand gouverneur d'Uchmal, cet Indien parfait, avec cette coiffe de plume étrange, avait eu un fils. Mais un fils qui était né dans un œuf. Un œuf peut-être un peu gros. Mais cet œuf, au moment où on l'avait cassé, où il s'était ouvert, on en avait vu sortir un petit nain. Un petit nain avec des pouvoirs surnaturels. Et là, quelques années après, on va demander à ce petit nain un peu mage de construire en une seule nuit la pyramide, la grande pyramide d'Uchmal. Et magiquement, il va, bien sûr, ce devin, réussir son ouvrage. D'un seul coup est sortie de terre cette fabuleuse pyramide du devin sur laquelle vous êtes monté. Et du sommet, vous vous sentirez petit nain, c'est vrai, mais gouverneur d'Uchmal, parce que dès que la construction a été terminée de manière magique, il a reçu le pouvoir, son père s'est retiré. C'est une légende, on peut être petit, voire grand, voire immense. Non seulement immense, mais comprendre que l'universel n'a pas de limite. Une pierre sur une pierre peut tout à coup créer la magie d'Uchmal. Depuis le sommet de la pyramide, vous dominez un monde, vous dominez une pensée. Même sans rien comprendre d'Uchmal, Uchmal vous fera comprendre que les Mayas ont réalisé une certaine perfection. Le temps, l'espace, la lumière, tout est là, sous vos pieds. Au XVIIIe siècle, on l'a retrouvé à Chumayel, un petit village maya du Yucatan. À Chumayel, il y a une église, bien sûr, un manuscrit. Un manuscrit qui raconte l'histoire du Chilam Balam. Balam, jaguar, Chilam, le sorcier jaguar, celui qui devine, celui qui sait. Un peu comme le mage de tout à l'heure qui est monté sur la pyramide du devin, qui l'a construite en une nuit. Le Chilam Balam, c'est l'ouvrage des sages. Et là, on nous parle déjà d'Uchmal. On nous dit qu'Uchmal a été construite, a été révélée au monde aux alentours du 7e siècle. Oh, quand on connaît l'histoire et qu'on dit qu'on a abandonné Uchmal en pleine époque classique, classique par rapport aux Mayas, bien sûr, on se dit que ça n'est pas possible parce que les archéologues, à partir des années 30, ont commencé à travailler sur des dates, sur des hiéroglyphes. Et puis, dans les années 50, on a découvert le carbone 14. Et on s'est dit qu'en fait, Uchmal avait dû être occupé entre 770 et 950 de notre ère. Et oui, Ujmal est assez jeune, jeune par rapport aux grands sites classiques que vous connaissez peut-être dans le Petén, du côté de Palenque, du côté du Guatemala, du côté même du sud d'Ujmal. Non, là, on est arrivé assez tard. Donc la fondation par un certain Xiu, une dynastie Xiu, au 7e siècle, au 5e siècle, au 6e siècle, non, tout cela n'est pas possible. Et le Chilambalam, qui lui est de Mani, un autre ouvrage, identique à celui de Chumayel, qui a été retrouvé dans cette église, où il y a eu pourtant autant d'autodafé que partout ailleurs au Mexique, où là, Diego de Landa a incendié tous les livres mayas, toute la connaissance de ce peuple précolombien. Et bien là, on nous a dit qu'un certain Ahashutok, Totol Xiu, avait fondé la cité d'Ushmal, en un Akatum qui s'appelait De Hahao. De Hahao, une époque, un moment qu'on pourrait ensuite associer à 10 katounes supplémentaires, c'est-à-dire 200 ans, au cours desquels Ushmal va régner en compagnie de Chichen Itza et de Mayapan, deux autres cités. Regardez ces sites, Chichen, Mayapan, Ushmal, ils ne se ressemblent pas. Les précolombiens pouvaient mentir, les légendes sont des légendes, les katounes sont les katounes. Dites-moi, quand est né Jésus-Christ ? La Ligue de Mayapan n'a pas pu exister à ce moment-là, c'est vrai, l'histoire est refaite par ceux qui l'écrivent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des édifices importants et magnifiques qui ont tous été construits aux alentours de 900 de notre ère. Et qu'à ce moment-là, Chichen Itza existait déjà, bien sûr, mais que là, l'occupation, qui est pourtant parallèle, va coïncider pendant quelque temps avec Ushmal et ensuite va continuer. Continuer durant au moins un siècle. Et puis ensuite, il y a Mayapan. Mayapan, c'est carrément 1200, 1400 de notre ère. Vous voyez, trois villes. La première, c'est Ushmal. Celle qui a été construite trois fois. Ushmal. Trois fois. Trois fois parce que peut-être qu'elle a traversé trois époques. Une époque de gloire qui est celle des années 900. Et si on dit que les Xiu sont venus du sud-ouest de la péninsule, qu'ils venaient de Nonalco, de la côte du Golfe, c'est encore peut-être une légende, mais c'est vrai. Ils parlaient Chontal. Ils étaient comme les Itzas qui ont fondé Chichen. Ils étaient Nahua. Ils avaient un idiome qui ressemblait aux Mexicains. Ils avaient des dieux du Mexique central, un panthéon religieux très différent. Et tous les symboles de l'iconographie que l'on connaît dans le Mexique central, on va la retrouver. Oui, cette iconographie, on va la remettre à Ushmal, avec des sculptures de serpents emplumés, avec des structures assez curieuses, comme on les voit sur le jeu de pelote, comme on les voit dans le quadrilatère des nonnes. Ces édifices qui vont petit à petit se coller à cette idée des Xiu qui vont occuper les lieux à la fin du Xe siècle. Et je crois que c'est plus probable si on pense que cette sculpture a en fait été le reflet de tous ces contacts que Ushmal a eu avec cette cité qui est là-bas, à près de 200 km. Chichen Itza, près du puits des Itzas. Savez-vous qu'à Ushmal, il n'y a pas d'eau ? Savez-vous que non ? On ne boira que de l'eau, de grandes citernes. Il faut quelques grenouilles, quelques tortues tombées du ciel pour remplir votre citerne, pour vivre toute une année à Ushmal. Pour la première fois, quand je dis 850, quand je dis 900 de notre ère, j'ai envie de chercher, de fouiller, de lire, de comprendre les hiéroglyphes. Il y en a très peu à Ushmal. Il y en a si peu qu'en définitive, nous ne connaissons que quelques grands personnages. Mais c'est la première fois qu'on peut en parler. Ce sont des découvertes tout à fait récentes. Et quand vous êtes devant l'hôtel 10 d'Ushmal, celui qui est caché maintenant dans le musée régional, ce musée d'anthropologie qui se trouve dans la petite ville et dans la capitale du Yucatan, qui est Mérida, eh bien, sur cette pierre taillée, il y a des hiéroglyphes. Oh, ils ne sont pas nombreux. Il y a 10 hiéroglyphes, un peu complexes, avec des affixes, avec des suffixes, avec des infixes. Et quand on les lit, tout à coup, on découvre des noms de personnages. Oh, il a fallu plus de 100 ans pour arriver à comprendre certains de ces hiéroglyphes. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous connaissons le seigneur Chak. Chak, c'est le dieu de la pluie. Ce seigneur Chak, il est accompagné par un Ahau, ce qui veut dire quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui est gouverneur, quelqu'un qui est chef. C'est le petit hiéroglyphe qui est juste à côté du sien, pour signifier que c'est lui qui a le pouvoir, c'est le premier grand de la lignée. Et puis, en dessous, on voit effectivement, en troisième position, un Chak Winal. Chak Winal, c'est quelqu'un qui est à la fois pluie et qui est à la fois moi. Il y a du temps, il y a de l'espace, il y a cette pluie, ce dieu de la pluie tombé du ciel. Et son second nom, c'est le seigneur du pays des montagnes. Et oui, Witz-Ahau. Witz, ce sont les collines. Ces petites collines, cette chaîne de montagnes que nous avons traversée depuis Mérida, que nous voyons depuis le sommet de la pyramide du Devin. Et juste derrière, il y a encore un autre hiéroglyphe. C'est celui d'une dame. Madame Os, difficile à prononcer en français, mais c'est vrai que souvent on reprend l'idée de l'ossature, l'idée d'un tibia ou d'un crâne pour donner le nom de quelqu'un. Mais c'est une femme, incontestablement, une grande souveraine de d'Uxmal. Retrouver comme cela sur la pierre, graver cette signification étrange qui nous permettra de comprendre cette idée même de ce qu'était une dynastie, une descendance, des ancêtres. Tout à coup, ça nous permet de mieux comprendre comment des dizaines de milliers d'hommes ont pu construire, déplacer ces millions de mètres cubes de terre, sculpter ces milliers, ces millions de pierres pour en faire des monuments d'une rigueur et d'une structure véritablement implacable. Et puis il y a ce monument 14. Là, vous l'aurez peut-être vu en entrant sur le site, dans le musée qui se trouve juste avant de voir la pyramide. Ce musée qui a une certaine allure, où là, on va vous présenter sur la stèle 14, eh bien, de nouveau, le seigneur Chak. Ce seigneur Dieu de la pluie, qui est à la fois un homme et un dieu, avec sur la tête une couronne de plumes de Quetzal, ces plumes de couleur verte, avec ce côté turquoise, cette brillance étrange, ce reflet étrange, une couronne comme on en a peu vu chez les Mayas, une couronne qui doit bien faire un mètre de diamètre, et sous ses pieds, il y a la forme d'un jaguar, il y a des prisonniers, il y a des gens qui sont écrasés par lui-même. Oh, la sculpture n'est pas très bonne, et on a eu même certains dessins du 19e siècle qui nous ont aidés à mieux la comprendre, mais nous savons par les hiéroglyphes qui s'y trouvent, là, juste sur le côté gauche, nous savons que c'est bel et bien ce grand seigneur Chak dont nous avons le portrait. Et puis si vous allez sur le jeu de pelote, vous allez trouver que, comme sur tous les grands jeux mayas, il y a des arcs, et puis surtout ces cercles. Vous savez, ces anneaux que l'on utilisait afin que la balle de caoutchouc passe au centre. Ces anneaux, il y en a un au musée à Mérida, il y en a un qui est encore sur place. Ils étaient couverts de hiéroglyphes, et là on retrouve ce même seigneur, ce même gouverneur Chak. Et ceci nous prouve bel et bien que ce personnage a été peut-être un des plus importants du lieu. Une sorte de... Bon, je vais l'appeler Louis XIV, pourquoi pas, parce que quand on est devant le palais des gouverneurs, quand on est devant ces pyramides étranges et qu'on sait que tout cela a plus ou moins été daté des années 900... Tiens, le jeu de pelote, là, lisez le hiéroglyphe. En partant d'un glyphe introducteur, vous allez voir qu'en remontant jusqu'à 3114 avant Jésus-Christ, il a fallu des Baktoun, des Katoun, des Toun, des Winal et des Kin, des jours, des mois, des années, afin de vous dire que tout cela a été érigé, a été inauguré en 905 de notre ère. Et je pense que ce seigneur Chak, ce seigneur dieu de la pluie, se retrouve peut-être même à Kaba. On pense qu'il est aussi à Chichen Itza. Il y avait des relations, il y avait naturellement des voyages, il y avait un pouvoir, il y avait du commerce. Et durant son règne, remettez-vous au sommet de la pyramide. On a terminé très certainement le quadrilatère des nonnes. On a terminé la maison du gouverneur, Uxmal, n'est pas jaune, n'est pas doré avec de la verdure. Non, maintenant, sous vos yeux, Uxmal est rouge. Rouge de peinture, bleu, bleu turquoise, jaune. Une ville décorée avec ses mosaïques. Son grand gouverneur, son seigneur, une cour, des habits de couleurs chatoyantes, de la musique, une ambiance. Uxmal est propre. La citerne a de l'eau claire, le culte, l'encens. Vous sentez l'encens qui monte des temples? Les sacerdotes sont rentrés dans les salles obscures. D'autres sont montés sur la pyramide, la grande pyramide. Ils sont montés sur l'arrondi d'un nez de Chak qui sert d'entrée au temple. Ils ont allumé quelques torches. Ils ont vu la divinité. Ils ont compris que c'était l'heure où le gouverneur, le grand chef, allait descendre de son trône de jaguar et partir là-bas, sur le sac B, pour rejoindre le site de Kaba. Peut-être visiter Sahil Labna, tous les 20 jours. Pourquoi pas? Selon le rythme du temps, selon les mois précolombiens, les saisons, les fêtes. Simplement pour qu'une grenouille, pour qu'une tortue, pour qu'un éclair, pour qu'un tchak vous obéisse et remplisse votre citerne. Tout n'a pas été si facile à Uxmal. Les archéologues ont remarqué qu'autour d'Uxmal, il y a seulement quelques mois, on a remarqué qu'il y avait eu une muraille, un fossé, une protection. C'est un peu comme partout en terre maya. Depuis quelques mois, on découvre que le maya n'a pas été aussi paisible. Ça n'est pas le grec du Nouveau Monde. Non, le grec a pu être Sparte ou Athènes. Le grec a pu se battre comme un guerrier, être athlète, être sculpteur, être artiste, aimer la beauté, mais souvent l'humain est à la fois comme cela et comme cela. Un kilomètre sur un kilomètre, une muraille de ciment, de chaux, et puis ces édifices au centre, avec tout ce que vous avez rêvé là dans cette période classique terminale. Et s'il le faut, pour que vous puissiez vivre, pour qu'on serve ce centre, un peu partout, des choltunes, vous savez, ces dépôts d'eau de pluie, ces citernes. La pyramide du devin, vous la connaissez maintenant, elle doit bien faire 35 mètres de hauteur. Elle est surtout très large. Imaginez un flan, un gros flan caramel au bord arrondi, quelque chose qui se pose doucement avec ses étages semi-arrondis, et puis cette impression de puissance, cette façon ovaloïde de se poser sur le sol qui est tout à fait étrange, qui en fait un monument qui ne ressemble à aucun autre. C'est vrai que je peux vous expliquer, vous êtes devant, vous allez grimper, vous êtes courageux, prenez la chaîne et tenez-la, ne la lâchez plus jusqu'en haut, 30 mètres, presque à la verticale, ne vous retournez pas non plus. Au centre, vous allez vous arrêter, il y a une ouverture, il y a une sorte de tunnel, ce sont les archéologues qui l'ont fait, ne pénétrez pas, on ne peut pas voir l'intérieur, mais sachez tout de même que vous êtes sur un bâtiment qui n'est pas seul, qui n'est pas unique, non, il s'agit de 5 pyramides, les unes sur les autres. Vous avez déjà coupé un oignon en deux? Vous allez voir, l'oignon se fait comme on fait l'écorce, ou plutôt les arrondis d'un tronc d'arbre, vous savez, ces couches successives. On est parti d'un petit centre de l'oignon, et puis on a rajouté une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième pyramide. Pourquoi pas? Vous verrez qu'avec un tunnel, avec un bout d'escalier, avec un temple, on peut comprendre comment, non pas en une nuit, non pas avec un magicien, on a construit petit à petit la pyramide du devin pour en faire un monument à plus de 30 mètres de hauteur, avec cette base large, lourde, et puis cet escalier qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à 35 mètres. Vous envoyez le bois au laboratoire, là, ce linteau qu'on vient de retrouver, vous l'analysez. Vous en faites une étude au carbone 14 et vous tombez à la renverse. 560 de notre ère. C'est le plus ancien, le plus ancien morceau de bois que l'on ait retrouvé dans une construction à Uxmal. C'est assez ambigu parce qu'il est sur un bâtiment qui est peut-être un peu plus âgé que le morceau de bois lui-même. Mais enfin, on a été présent, on a sculpté, on a travaillé, on a construit à Uxmal en 560. L'ensemble que vous avez sous les yeux est plus tardif. On vient de retrouver là la reine d'Uxmal, une sculpture extraordinaire qui fait partie du devin, avec, c'est un serpent qui ouvre la bouche démesurément avec un œil rond, et dans la bouche, un personnage superbe, avec une couronne, et puis sur sa joue, tout simplement, c'est sa joue droite, une scarification. Vous savez, prenez la peau, vous taillez à vif avec une pierre d'obsidienne, avec un rasoir d'obsidienne, et vous laissez s'infecter gentiment afin que tous les points restent bien marqués. Vous allez faire une forme arrondie, comme une forme solaire. C'est peut-être un personnage, c'est peut-être un ancêtre, c'est peut-être un gouverneur, mais il porte sur sa joue le symbole même du dieu. Il est craché par un autre dieu, le serpent lui-même. C'est vrai que ce petit morceau de la pyramide que l'on a placé au musée d'anthropologie, quand vous rentrez dans la salle Maya, là-bas à Mexico, dans la capitale, vous fera déjà songer à la qualité de ce qu'a été au schmal. Mettez un peu de couleur et vous verrez que le serpent, la tête, la qualité même de tout cela en fait un monument incroyable. Et puis là, vous avez retrouvé aussi Tlaloc. Tlaloc, oh, il faut déjà être un peu connaisseur. Tlaloc, c'est le dieu de la pluie, mais ça n'est pas le Tchac des Mayas, c'est le dieu de la pluie mexicain qui lui porte le symbole de l'année de 360 jours, un hiéroglyphe qui ressemble à la lettre A. Ah, ben ça, c'est une chose qu'on a retrouvée aussi à Uxmal. Ah, on était capable de parler plusieurs langues sur les monuments mayas. On était capable d'importer des dieux d'ailleurs. Vous me direz que la croix que l'on porte chez nous vient d'ailleurs aussi. Les symboles passent d'un endroit à l'autre. Vous êtes à 1800 km des hauts plateaux, des terres centrales du Mexique, et pourtant là, dans ces temples successifs, on a connu toutes les phases et toutes les civilisations. Le temple numéro 4, quand vous le découvrez, il est fait, oh, c'est quand vous redescendez de l'autre côté de la pyramide, il est fait de centaines, oh, j'ai envie de dire centaines, mais en fait, ils sont peut-être dizaines de masques. Des masques énormes avec des yeux tout ronds et puis toujours ces grands nez arrondis, ces nez en forme de trompe sur l'avant, de chaque côté de l'escalier, comme une enfilade en ligne diagonale, mais sur une chute absolument verticale. Ça, c'est l'endroit où l'on a le plus peur. Là, on prend la chaîne à coup sûr et on redescend carrément, non pas en avant, mais en se tenant, des deux mains souvent à la chaîne et le ventre bien plaqué contre les marches. Et là, tout au sommet, on a aperçu, on le verra peut-être mieux de loin, une entrée qui a été flanquée sur le monument comme un temple secondaire qui a été reporté sur le premier monument, une entrée qui ressemble à une bouche de dragon. Regardez, c'est vrai, autour il y a, même si c'est très orthogonal, même s'il y a une forme un peu carrée, c'est bien une bouche avec des dents absolument énormes, il faut les deviner, ce sont des crocs géants. Le monument, la bouche, fait certainement 7 à 8 mètres de hauteur. Vous peignez tout cela en rouge, vous mettez les yeux de chaque côté, vous avez un monstre incroyable, vous avez la tête la plus immense qu'on puisse imaginer sur le site d'Uxmal, comme si vraiment un grand dragon, comme on pourrait le voir, comme on pourrait le penser en Chine ou en Asie, avec des couleurs très violentes, vous regardez. Mais il vous regarde maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire que vous avez eu une première entrée, une deuxième entrée, on est passé de l'est à l'ouest, et finalement, on voit que ces temples se sont succédés les uns sur les autres, ces pyramides sont montées petit à petit vers le ciel avec des significations qui sont peut-être un peu différentes. La numéro 4, ben vous avez vu ces énormes entrées, vous avez vu ces plumes un peu partout, cette idée d'un gouverneur qui devait régner à l'époque, d'une construction qui là, entre 850 et 900, parlait surtout de pouvoir. De pouvoir avec déjà 30 mètres de hauteur. Et le temple numéro 5, ce sera le dernier. Lui regardera à la fois à l'ouest et à l'est. C'est vrai que des deux côtés, on peut tout à coup s'imaginer que si je dis est, si je dis ouest, que le soleil s'est levé, que ce soir il se couchera. On a créé le trajet parfait. Et tout en haut, on a placé encore quelques petites sculptures avec des petites maisons. Mais comme la petite maison que vous avez vue là, dans la savane tout à l'heure, ou dans les villages mayas en venant de Mérida. Des petites maisons que l'on a resculptées et qui nous représentent de façon très simple ce que le maya vit tous les jours, ce dont il a besoin, c'est-à-dire son petit lopin de terre, sa maison pour dormir, et puis, depuis la conquête, un hamac qui lui a été importé des Caraïbes. Laissez-vous aller. La température est montée, il est bientôt 10 heures, il n'y a plus d'hirondelles. Mais il fait chaud à Uxmal aujourd'hui. Là, vous seriez bien dans une hutte, sans fenêtre, avec juste quelques bambous en claire-voie, afin de laisser passer ce petit rien de vent, ce petit rien de fraîcheur. La palme bouge, l'eau que vous avez cherchée au puits, vient de vous offrir la fraîcheur dont vous avez besoin. Le hamac se balance. Le feu brûle juste à côté. Le maïs répand une odeur. Dans quelques minutes, votre épouse, avec sa robe longue, son jupon, va vous faire quelques tortillas. Vous entendez le claquement des doigts, le claquement des mains. Elle les pose sur le comal, cette grande plaque d'argile, sur la braise rouge, avec un rien de chaud, avec ce maïs en bouillie qui vient d'être transformé en pâte dure, qui maintenant devient pain, l'aliment sacré du Maya, celui qui a permis peut-être de sculpter, de construire Uxmal. Comme cela, une heure au sommet d'une pyramide. simplement observer un paysage urbain. Une ville qui pour moi, avec Teotihuacan, Machu Picchu, reste la ville piétonne par excellence. J'ai dit tout à l'heure que là sur la gauche, il y avait 2,5 millions de mètres cubes qui avaient été placés là, gratuitement au centre de ce plateau, de ce paysage, pour placer un monument qui lui-même est gigantesque, le palais du gouverneur, que là en bas, on avait volontairement, on le sait, on imagine qu'en fait, il a fallu 13 ans pour construire le quadrilatère des nonnes, et que cet endroit qui a pu être une école sacerdotale, vous savez, comme les calmecaques, ces écoles où, comme dans l'islam aujourd'hui, on apprenait par cœur les poèmes, les légendes, un peu comme je vous les raconte, comme ça, a cappella, une histoire, l'histoire d'Ushmal. Et toutes ces pièces ont pu être aussi, si ce n'est un collège, un complexe résidentiel pour toute cette élite maya. Je m'arrête en 900 de notre ère. Vous aurez remarqué que sous vos yeux, ces différents monuments sont placés de façon, comment dire cela, de façon pensée, de façon un peu magique. Tout à l'heure, vous allez descendre par la partie la plus verticale de la pyramide du devin et vous aurez envie de pénétrer dans le quadrilatère des nonnes. Un moment qu'il faut... n'entrez pas par le coin, juste là en bas de la pyramide. Non, faites tout le tour. Redescendez au plus profond de la place, au plus profond du site. Restez à la hauteur du jeu de pelote que vous avez aperçu. Vous savez, le jeu de pelote, c'est facile à repérer. Ce sont ces deux tumuli avec le serpent à plumes et l'anneau qui permettaient de jouer, bien sûr, là, sur cette aire extrêmement plane et parfaite à la balle et de la faire rebondir, soit sur les parois, soit sur les pans inclinés. Non, depuis là, vous allez vous retourner et vous allez voir un escalier. Peut-être un peu en ruine, un escalier qui monte doucement, qui monte par plateaux successifs. Et en haut de l'escalier, le long d'une étrange paroi qui est percée de portes, il y a toujours ces ponctuations noires sur un calcaire lumineux. En bas, il n'y a pas de décor, c'est toujours quelque chose de très neutre, simplement de la peinture, une sorte de jus, de coloris mélangé sur un fond de chaux qui recouvre ce calcaire, le calcaire qu'on a extrait de l'endroit même, un calcaire qui, au moment où vous le coupez, est tendre comme du beurre et qui a durci immédiatement au soleil. À l'intérieur, il y a un ciment, une sorte de mortier qui s'est durci lui aussi, simplement parce que les échafaudages le tenaient. Et là, au centre, vous avez aperçu peut-être l'endroit le plus fort d'Ushmal. Une arche large, haute, avec... Mettez vos deux mains comme si vous vouliez former la ligne d'une cathédrale gothique. Mettez vos deux bras et prenez cette forme. L'arche d'Ushmal est tout en calcaire. Ah tiens, une main rouge a été appliquée au sommet, comme si l'on avait voulu marquer de la main de l'homme ce monument, comme si la main d'Itzamna, le dieu créateur, celui qu'on appelle l'homme aux mains rouges, avait voulu marquer, comme l'architecte l'a fait. Pourquoi est-ce qu'elle est encore là, cette main? Tout simplement parce que le calcaire était encore humide quand on a osé poser la main dans l'encre rouge, dans cette terre humide, et qu'on l'a déposée sur la pierre. Vous êtes sous la voûte et vous essayez d'avancer comme dans un travelling, comme dans les meilleurs cinémas. Plus vous avancez, plus l'image s'ouvre. En face, le monument nord est posé comme un décor. Et tout à coup, l'est et l'ouest se révèlent à vos yeux. Vous sentez l'espace, des ouvertures dans les angles. Vous êtes dans un quadrilatère et votre cœur s'est ouvert. Votre corps a senti qu'il respirait. Il est entouré dans une formule comme si je disais du bonheur. Vous êtes pris comme si on avait mis des bras autour de vous. Et en même temps, vous êtes libre, fabuleusement libre. Vous êtes un architecte génial. Vous avez créé un décor où rien n'est en contradiction. Même pas la pyramide qui est maintenant à droite, qui vient de se poser exactement comme un décor et qui glisse avec vous en avançant vers le centre du quadrilatère. Une dernière hirondelle vient de passer. Il fait 32 degrés. Vous venez de voir une stèle. Et là, des hiéroglyphes, il y a dû y avoir un gouverneur à Ushmal, un architecte et vous pour comprendre.